Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
Des machines qui créent des machines. Quelle perversité.
I don't know. Fly casual.
Dans une de ses nouvelles, Borges raconte l'histoire du jardin au sentier qui bifurque. Ce jardin, c'est une fiction pas comme les autres. C'est une fiction qui ne veut pas choisir de dénouement et éliminer les autres. C'est une fiction qui choisit d'adopter simultanément tous les dénouements possibles. C'est une fiction où tous les dénouements se produisent alors et où chacun est le point de départ d'autres bifurcations. Et ainsi, cette fiction crée à elle seule divers avenirs, divers temps qui prolifèrent et bifurquent à leur tour. Partie à l'aventure, mais restée groupée, l'équipe des Nouveaux Chemins est Marianne Padmé Chassor, Colomba Yoda Grossi, Lucie Obi-Wan Tardy, Antoine Aniravon, sans oublier bien sûr Adèle, Léa Van Rett, avec Mydia Dark Portis Guérin à la réalisation, Georges Palpatine Kless à la lecture de texte et à la prise de son dans son Falcon Millennium, Emmanuel Morsdinkan.
Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine... L'agitation règne au Sénat galactique. Des milliers de systèmes solaires ont annoncé leur intention de quitter la République. Confrontés à ce mouvement séparatiste mené par le mystérieux comte Dooku, les chevaliers Jedi, en nombre limité, ont du mal à maintenir la paix et l'ordre dans la galaxie. La sénatrice Amidala, ancienne reine de Naboo, revient au Sénat galactique participer à un vote crucial sur la création d'une armée de la République, pour aider les Jedi débordés.
C'est le troisième jour de la semaine spéciale héros sur France Culture et le troisième volet pour nous de notre série consacrée à la guerre des étoiles. Troisième volet et pas des moindres, car dans cette fiction qui a tout de celle de Borges, qui a tout d'un labyrinthe et d'un jardin au sentier qui bifurque, il n'y a jamais de point final. Seulement un récit qui continue de s'écrire d'épisode en épisode, un récit qui ne cesse de s'étendre à l'infini, encore aujourd'hui et encore ailleurs, jusqu'à être au plus proche de nous. Ou plutôt, dirons-nous que c'est un récit qui ne cesse de s'intensifier, car la prolifération de ces péripéties ne provient jamais d'un centre, mais toujours d'un foisonnement de centres, de planètes, de systèmes et de galaxies, d'une multiplicité authentiquement multiple, qui ne se laisse jamais contenir. Alors, à défaut de tout comprendre, de tout contenir, tentons malgré tout de saisir ces hybridations mi-homme, mi-machine, mi-bête, mi-technique, de comprendre ce monde qui se fissure indéfiniment de ces êtres technologiques complices des hommes, de ces humains devenus frères de créatures poilues et babillantes, de ces reines et empereurs qui s'allient avec des peuples mécaniques et même parfois numériques.
Oh my goodness.
Ngayon, puno daw to.
Makanita. Trito, Dogra, E, Soyoto, Amuno, Noka.
Tu comprends quelque chose à ce qu'il raconte?
Oui, Maître Luc. N'oubliez pas que je connais 6 millions de formes de communication.
Qu'est-ce que tu viens de leur dire, Cispéo?
Bonjour, je crois. Je peux me tromper, mais ils emploient un dialecte très primitif. J'ai l'impression qu'ils me considèrent comme une sorte de dieu.
Eh bien, pourquoi ne te sers-tu pas de ta divine influence pour nous sortir vite de là?
Je vous demande pardon, Général Solo, mais ce ne serait pas convenable.
Convenable?
Je ne suis pas programmé pour me faire passer pour une divinité.
Bonjour Jean-Claude Martin.
Bonjour.
Alors je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes philosophe et vous avez écrit un essai sur la fin du monde intitulé Pluriver. C'est paru en 2010 au PUF. Et dans cet essai, vous consacrez un chapitre entier à Star Wars. Star Wars, dites-vous, n'a plus rien d'un univers stable. Mais c'est en fait un pluriver de langues, de milieux déployés entre être de terre, d'eau, d'air et de feu, je vous cite, sous le signe d'une amitié aussi puissante que la guerre. Et c'est exactement ce qu'on vient d'entendre dans cet extrait. Donc c'est un extrait de l'épisode 6 de Star Wars, dans lequel le droïde C3PO, 6PO dans la version française, qui maîtrise plus de 6 millions de formes de communication, est divinisé par les Ewoks, ces petits êtres rusés, poilus qui vivent sur Andorre. Et on voit avec Star Wars, effectivement, que se créent des liens entre des êtres qui, a priori, n'ont rien à faire ensemble, Jean-Claude Martin.
Oui, en effet, on s'est installé, disons, d'emblée dans ce labyrinthe que vous évoquiez en ouverture, ce labyrinthe borgésien, à la différence près qu'il s'agit dans Star Wars d'un labyrinthe qui est vivant. Un labyrinthe qui est vivant, c'est un labyrinthe qui, au fond, se modifie, se module selon d'autres configurations à chaque étage, à chaque niveau abordé. Et donc, un labyrinthe vivant, c'est quelque chose que le mythe en tant que tel ne parvient peut-être pas à formuler. Il me semble que, évidemment, il s'agit là d'un récit, mais ce récit fictif, qui du reste n'est pas de la philosophie, même si la philosophie a toujours fait référence à des matériaux non philosophiques comme Platon dans le Banquet via Aristophane. Bon, je disais qu'il s'agit de récits fictifs, mais qui ne renvoie pas à la possibilité d'un fondement ou d'un fond qui soit autre qu'obscur, puisqu'on sait bien qu'Anakin n'a pas de père, que la forme adoptée par l'exposition que choisit Lucas, mais est-ce que c'est un choix, on ne sait pas trop. En tout cas, la forme adoptée est une forme qui est elle-même anachronique. C'est une forme qui...
En fait, vous voulez dire que le début n'est pas un commencement. Voilà. C'est-à-dire qu'on l'épisode 4 commence in medias res, comme on dit, au milieu de quelque chose. Oui. L'épisode 1, finalement, aussi, même si c'est l'origine, même si c'est avant, c'est Anakin, comment devient-il Dark Vador, finalement, on n'en sait pas plus. Oui. Pourquoi lui? Pourquoi au milieu de ce désert? D'ailleurs, effectivement, la forme du désert est intéressante pour ça. On en a parlé avec Pierre Judet de la Combe, c'est une terre vierge, mais finalement, on s'aperçoit que on ne sait pas comment se créent, commencent les choses, comment se créent ces rencontres entre, par exemple, les Ewoks ou ces 3PO.
Oui, c'est ça. Alors, on part toujours du milieu et du coup, le premier Star Wars est un film qui a des présupposés extraordinaires qui ont donné lieu ensuite à une prélogie finalement de 3 épisodes. Et donc, on est là sur un modèle temporel qui est extrêmement anachronique, qui est extrêmement labyrinthique et qui fait que on n'est pas tant dans la nostalgie, on n'est pas tant dans l'idée de devoir reconstituer une origine. On est plutôt, je vais peut-être prendre un exemple, lorsque un vase se brise, on a tendance à recoller les bouts. Ici, c'est un vase brisé, mais dont les bouts vont se réarticuler selon des agencements qui sont tout à fait différents. On ne cherche plus à restaurer, on ne cherche plus à remonter à une origine. On est d'emblée dans un milieu qui vous emporte un peu comme un vaisseau spatial, sur des univers en perpétuelle hétérogénéité, en perpétuelle bifurcation, et d'après des vitesses aussi qui dépassent tout ce qui est humain.
Ce qui nous renvoie aussi à la dimension spatiale, c'est-à-dire que la dimension temporelle temporelle est bouleversée, mais la dimension spatiale aussi, avec cet exemple du vase que vous venez d'employer, et le fait que justement dans les vaisseaux, on parvient à aller de planète en planète. Oui. Il y a souvent des cartes représentées quand même, soit d'hologrammes dans Star Wars, et effectivement, tout est à portée de main.
Tout est à portée de main. On est effectivement dans la dans un espace qui est bon, qui est technique. Vous faisiez allusion au robot, à la à ce foisonnement aussi de codes qui s'agence de manière que l'intelligence humaine ne parviendrait pas à suivre et qui relève d'une espèce de mécanique, d'une espèce de phonologie aussi où tout se distribue. Parfois de façon aberrante, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Donc, les robots ont un mode d'expression qui est à la limite du bruit, qui est à la limite du non-sens, qui est un peu dans cet univers borgésien, la bibliothèque quand il y a une suite de lettres qui ne veulent rien dire.
Mais finalement, on comprend leurs émotions, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire que les personnages communiquent entre eux, alors même qu'ils viennent de planètes différentes, qu'ils se rencontrent un peu de manière arbitraire. Finalement, on arrive à comprendre leur histoire, que ce soit R2-D2 qui est traduit à chaque fois en fait par C3PO, ou d'ailleurs dans le dernier, dans le 7e épisode, où il y a le petit robot qui s'appelle BB-8, alors lui c'est mi-machine, mi-animal, il ronronne en fait, il roule et il ronronne, c'est une boule qui roule et qui ronronne, ça c'est mignon d'ailleurs.
Oui c'est vrai, et donc on est toujours pris dans, je disais, un labyrinthe vivant, parce qu'on est toujours dans l'indistinction de ce qu'on va rencontrer, et donc dans l'impossibilité au fond d'affiner une origine celui qui prend la parole, parce que il vient forcément d'un temps qui est un temps insituable, hein, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. On est là effectivement dans un bouleversement à la fois temporel et spatial, dans une forme d'extension où se croisent des univers qui ne peuvent plus s'articuler en un récit au sens classique du terme, avec un début qui serait perturbé par un événement, une situation initiale qui serait perturbé par un événement et une restauration, c'est-à-dire la fin qui pourrait se boucler sur elle-même et donner sens finalement à ce qui a été perturbé.
Thank the maker. This oil bath is going to feel so good. I've got such a bad case of dust contamination, I can barely move.
N'oublie pas le grand concepteur. Ce bain d'huile est une bénédiction. J'ai les joints durs, si oxydés que je peux à peine bouger.
C'est vraiment pas juste. Tous mes copains sont déjà pilotes, moi je suis prisonnier ici.
Est-ce que je peux être utile à monsieur ?
Ah non. Sauf si tu sais accélérer le temps qui passe, avancer l'époque de la moisson, ou si tu peux m'aider à décoller d'ici.
Je crains que non, monsieur. Je ne suis qu'un simple droïde et mes capacités sont limitées sur une planète comme celle-ci. À propos, je ne sais même pas sur quelle planète je suis.
Eh bien, s'il y a un point central dans cet univers, tu es sur la planète qui en est le plus éloignée.
Je remercie, monsieur.
Oh, tu peux m'appeler Luc.
Très bien, messire Luc.
Luc, tout court.
Moi, je m'appelle Z6PO, interprète des données cyborg. Et voici mon équipier, D2R2.
Salut. Tu as des traces de carbone dans tous les circuits. On dirait que vous avez été au feu.
Quand je pense à ce que nous avons traversé, je n'en reviens pas que nous soyons encore en état de marche. Avec cette rébellion et tout ça.
Tu es au courant de la rébellion contre l'Empire?
C'est même à cause d'elle que nous sommes maintenant chez monsieur.
Tu as vu des batailles?
Plusieurs, enfin je crois. Mais je n'ai pas grand-chose à dire. Je suis un interprète, je ne sais pas très bien raconter les histoires. Ou du moins, je n'arrive pas à les rendre intéressantes, hélas.
Ce qu'on n'a jamais vu, ce dont on n'a jamais entendu parler, on peut pourtant le concevoir. Et il n'y a rien au-dessus du pouvoir de la pensée, sauf ce qui implique une absolue contradiction. Mais bien que notre pensée semble posséder cette liberté, nous trouverons à l'examiner de plus près qu'elle est réellement resserrée en de très étroites limites et que tout ce pouvoir créateur de l'esprit ne monte à rien de plus qu'à la faculté de composer, de transposer, d'accroître ou de diminuer les matériaux que nous apportent les sens et l'expérience. Quand nous pensons à une montagne d'or, nous voyons seulement deux idées compatibles, or et montagne, que nous connaissions auparavant. Bref, tous les matériaux de la pensée sont tirés de nos sens, externes ou internes. C'est seulement leur mélange et leur composition qui dépendent de l'esprit et de la volonté. Ou pour m'exprimer en langage philosophique, toutes nos idées ou perceptions plus faibles sont des copies de nos impressions ou perceptions plus vides. Ainsi, nous accordons aisément que d'autres êtres puissent posséder beaucoup de sens que nous ne pouvons en rien concevoir. Car les idées de ces sens n'ont jamais été introduites en nous de la seule manière dont une idée puisse accéder à l'esprit, à savoir par la conscience actuelle et la sensation. Jean-Claude Martin, on vient d'entendre deux éléments. Le premier, c'est un extrait de l'épisode 4 de Star Wars. C'est la rencontre, pas tout à fait la rencontre en fait. C'est juste après la rencontre entre Luke et C-3PO. C-3PO qui prend un bain d'huile parce qu'il a mal aux articulations. On voit à quel point le robot, le droïde de protocole est ici complètement humanisé. On voit aussi ce qu'on a dit, à savoir la relation entre Luke et ce droïde qui finalement ont une relation qui se lie d'amitié. Puis juste après, j'ai lu un texte de Hume, c'est un extrait de son enquête sur l'entendement humain de 1748, dans lequel effectivement il parle de l'idée qu'on ne puisse pas concevoir, qu'on puisse rapprocher deux idées au départ qu'on ne pouvait pas concevoir, mais qu'on les rapproche grâce à nos perceptions. Et c'est exactement ce que permet Star Wars, à savoir d'arriver, de parvenir à concevoir des hybridations entre humains et technologies qui vont complètement redéfinir l'humanité.
Oui, et donc en effet, comme le dit Hume, il est possible en tout cas d'envisager des sens que nous ne pouvons, nous, humains, en rien concevoir. Et effectivement, dans l'univers de Star Wars, nous sommes dans l'hyperespace. Enfin, c'est-à-dire que les vitesses qui sont envisagées sont des vitesses qui relèvent de l'instantanéité. Et on n'est pas dans le modèle augustinien, enfin saint Augustin, on n'est pas du tout dans ce modèle temporel, chronologique, etc. On est dans des formes d'appréhension qui nécessitent une approche qui soit relative à une autre esthétique. Bon, Kant définit l'esthétique comme un espace, un temps articulé par nos sens selon certaines règles, et il se trouve qu'au fond, on pourrait envisager en deçà de l'esthétique humaine, en deçà de cette manière d'articuler le temps et l'espace autour de la notion de causalité par exemple, on pourrait envisager effectivement que l'animal ou ici tout à l'heure C3PO soit en mesure en effet de s'engager dans un processus qui est humain, parce que l'humain n'est jamais rien d'autre qu'artificiel. Humain tout en débordant complètement ce que nous appelons depuis Kant l'esthétique, la sensation, la sensibilité humaine ou la perception. On est donc ici plutôt dans un monde qui est allé au-delà de la main. On sait déjà que la main constitue, bon, on voit bien comment les Jedi font un usage, d'ailleurs leur main est souvent coupée ou hybridée sur des mains artificielles, comment ils utilisent des sabres électroniques, etc. On voit bien déjà au départ, cependant, que l'anthropologie contemporaine a montré comment la main s'est libérée de la marche, comment la main s'est libérée du schéma moteur, de la motricité. On n'utilise plus les mains pour courir ou pour grimper. Les mains sont devenues en tant que telles un instrument strictement artificiel, qui est capable donc de s'organiser selon un autre principe que la nature, que ce qui a été déterminé par l'instinct. Et du coup, on est du côté de l'homme d'emblée dans quelque chose d'artificiel, au point que on pourrait dire que la seule nature de l'homme, c'est de ne pas avoir de nature, comme le dit Rousseau déjà, et que au fond, l'humanité se définit d'emblée par la perfectibilité, à savoir que il y a un processus humain à partir du moment où le corps se met à fonctionner de manière qui n'est plus organique. On est dans ce que Deleuze appellerait un corps sans organes, c'est-à-dire c'est un corps qui s'agence selon des possibilités, des potentialités qui déborde amplement ce que la nature aurait pu prescrire pour le mouvement du corps et pour son espace, pour sa temporalité. Et donc, pourquoi pas, à partir de là, en effet, considérer que le foisonnement des êtres tels que Lucas les disperse, les dissémine sur des plans hétérogènes, pourquoi, en effet, ce foisonnement des êtres ne serait pas la meilleure définition de ce qui n'a pas de définition, à savoir l'humain. On est là en face donc de régimes d'animalité, notamment, je pense à Jar Jar. Bon,
Jar Jar. Jar Jar Binks, voilà, dans la prélogie.
C'est ça. On est donc avec, on est dans des univers aquatiques, aériens,
parfois urbains, tout à fait.
Oui, urbains, et toute cette république là, toute cette république d'être hétérogène serait ce que nous pourrons envisager comme homme, à condition de comprendre que homme ne veut pas dire une espèce, que homme, dans l'anthropologie, on sait aussi, ou dans la préhistoire, on sait aussi que il y a eu concurrence d'hominidés. Il y a eu concurrence entre, Cro-Magnon et Néandertal. Les deux ne sont pas génétiquement constitués du même apport. Les deux sont extrêmement différents. C'est pas la même espèce. Et pourtant, ils ont des comportements artificiels. Ils ont la capacité de tailler la pierre et de faire usage de la main, un usage de la main qui est déjà artificiel. Ce n'est pas encore le sabre des Jedi, mais c'est déjà un signe en direction d'un devenir et non pas d'un destin. Je crois qu'on n'est pas justement ici dans un récit qui relève du destin, mais on est dans un récit de devenir, et c'est pour cette raison-là.
Un récit des possibles, finalement, parce que ce que vous dites, c'est que si C3PO n'est pas tant humanisé que l'homme, finalement, était déjà en fait artificiel. D'ailleurs, C3PO est avec Luke, et Luke va se faire couper le bras par son père, on en parlera demain, mais effectivement, il va avoir une main artificielle, donc ça rejoint ce que vous dites. Mais l'autre chose qu'on entend dans l'extrait aussi, c'est ce décentrement spatial, c'est-à-dire que Luke situe Tatooine aux confins de l'univers. Et donc cette idée de plurivers de laquelle on est parti, que vous développez dans votre essai, permet, on voit à quel point ça permet aussi de repenser spatialement, temporellement les catégories de définition de l'humanité qui ne seraient plus des catégories biologiques situées à un univers en particulier. Dans Star Wars, on peut respirer dans l'espace par exemple, on peut être dans l'eau sans être mouillé. Finalement, l'humanité donc ne renvoie plus à des catégories biologiques, mais renvoie en fait à ce que vous appelez un devenir ou alors à des possibles.
Ça renvoie en effet à cette idée de plurivers, de pluriversalité, ou ce que la physique appellerait multivers, à savoir non plus un monde au sens qui serait un cosmos, en tout cas qui serait fermé sur sa propre unité, sur sa propre définition possible ou sur sa propre limite qui en ferait un arrangement fini. On n'est donc plus dans la posture du monde. Je crois que le monde contemporain, si on peut encore utiliser cette idée de monde, est en effet un monde qui est pluriel. Il faudrait parler de monde, le monde s'est émondé ou s'est soustrait à la capacité au fond de fixer quelque chose comme une unité. Alors, ce qui m'intéresse moi dans cette narration propre à Star Wars, c'est que on n'est plus du tout dans quelque chose qui relèverait d'un mode d'articulation qui soit qui relèverait du roman ou qui relèverait d'autres formes de ce genre. On est plutôt dans le cinéma, il est vrai, avec la temporalité propre au cinéma, et en même temps peut-être dans quelque chose que on pourrait qualifier d'opéra. Enfin, il y a un genre.
C'est d'ailleurs un space opéra.
Space opéra. Donc, le space opéra, c'est quoi? Le space opéra, c'est aussi précisément un opéra qui se développe dans un espace supraluminique. Enfin, c'est ça aussi la force. Quand je disais c'est un labyrinthe vivant, je voulais dire par là au fond que en début d'émission, la force, c'est ce qui à chaque degré, à chaque niveau de ses potentialités, de ses puissances, ouvre des exposants, comme en mathématiques, un chiffre peut avoir des puissants, des exposants, et bascule dans un autre monde. Donc, et je crois qu'en effet, la série de Star Wars donne ouvre à des champs possibles, à des multiplicités qui sont hétérogènes et qui permettent à, au fond, non pas seulement de pratiquer d'autres langues, mais de s'introduire dans des paysages, dans des espaces auxquels, au fond, le temps est soustrait et qui relèvent de quelque chose qu'on peut articuler à travers différents plateaux, comme on le voit d'ailleurs sur Coruscant, où les différents mondes sont représentés comme ça dans un espace extraordinaire, enfin, dans des plateaux presque comme un clavier dactylographique.
Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough, just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour, that's orbiting at 90 miles a second, so it's reckoned, a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day in an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way.
Vous écoutez France Culture, semaine spéciale héros, il est 10h26 et c'est le troisième volet de notre semaine Star Wars en partenariat avec le hors-série de Philosophie Magazine. Et pour ce troisième volet, ce troisième épisode, j'ai le grand plaisir de recevoir Jean-Clé Martin, à qui l'on doit Pluriver, un essai sur la fin du monde paru au PUF et qui vient aujourd'hui nous parler des Plurivers de Star Wars, de ses hybridations politiques à ses implications cosmologiques.
And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe.
La déesse mena Théodore dans un des appartements. Quand il y fut, ce n'était plus un appartement, c'était un monde. C'est l'histoire de ce monde où nous sommes maintenant en visite, lui dit la déesse. C'est le livre des destinées de Sextus. Théodore passa dans un autre appartement et voilà un autre monde, un autre Sextus, qui, sortant du temple et résolu à obéir à Jupiter, va en Thrace. Il y épouse la fille du roi et lui succède. Il est adoré de ses sujets. On allait en d'autres chambres et on voyait toujours de nouvelles scènes. Les appartements étaient en pyramide, ils devenaient toujours plus beaux à mesure qu'on montait vers la pointe et ils représentaient de plus beaux mondes. On vint enfin dans le suprême qui terminait la pyramide et qui était le plus beau de tous, car la pyramide avait un commencement, mais on n'en voyait pas la fin. Elle avait une pointe, mais pas de base. Elle allait croissant à l'infini. C'est parce qu'entre une infinité de mondes possibles, il y a le meilleur de tous. Autrement, Dieu ne se serait point déterminé à en créer aucun. Mais il n'y en a aucun qui n'est encore de moins parfait en dessous de lui. C'est pourquoi la pyramide descend à l'infini. Théodore, entrant dans cet appartement suprême, se trouva ravi en extase. « Nous sommes dans le vrai monde actuel, » dit la déesse. « Voici Sextus tel qu'il est et tel qu'il sera actuellement. » Il sort du temple tout en colère, mettant tout en désordre, violant la femme de son ami. Et cependant, il ne pouvait manquer de choisir ce monde qui surpasse en perfection tous les autres, qui fait la pointe de la pyramide. Vous voyez que Jupiter n'a point fait Sextus méchant. Il l'était de toute éternité. Il l'était toujours, librement.
And the Jedi Rebellion has been foiled.
What's happened?
The Chancellor's been elaborating on a plot by the Jedi to overthrow the Senate.
The remaining Jedi will be hunted down and defeated.
Et la rébellion des Jedi a pu être matée.
Que s'est-il passé?
Le Chancelier parle d'un complot qu'auraient fomenté les Jedi pour renverser le Sénat.
Et pour le reste des Jedi, nous avons donné l'ordre de les traquer et de les exterminer. Cette tentative de meurtre a eu des effets. Elle a laissé de profondes cicatrices sur mon corps
et dans mon âme.
Mais soyez assurés que ma détermination n'a jamais été aussi grande. Pour garantir la sécurité dans la continuité et la stabilité, la République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité.
Ainsi s'éteint la liberté, sous une pluie d'applaudissements.
Jean-Claude Martin, vous avez parlé tout à l'heure d'opéra, de clavier que présente Star Wars, et c'est exactement ce qu'on retrouve à la fois dans le texte de Leibniz, dans lequel la déesse mène Théodore dans une sorte de pyramide infinie, où elle va de chambre en, d'appartement en appartement, de monde en monde, une pyramide infinie, sans base et ni sans sommet, et c'est exactement aussi le Sénat dans lequel Palpatine s'autoproclame en qui est une sorte de dôme infini, sans base ni sommet non plus, et où les planètes en fait apparaissent, à chaque fois sont représentées comme autant d'appartements, comme autant de mondes, et ce rapprochement entre Leibniz, Palpatine, ce Sénat, effectivement l'idée d'opéra, là on la retrouve de manière frappante.
Oui, alors je trouve en effet que ce texte de Leibniz est remarquable à plus d'un titre. Il est remarquable en ce que il montre ce que la philosophie est capable de créer du point de vue de non seulement de la littérature, de l'expression d'un texte, mais d'un concept. Alors, le concept ici que crée, dont Leibniz est vraiment l'auteur à part entière, ce concept qu'il crée, c'est le concept de Dieu, au fond, tel qu'il perçoit le monde avant de procéder au choix du meilleur, c'est-à-dire avant l'intervention du principe de raison qui va établir que, au fond, l'appartement qui sera le monde dans lequel tout va s'actualiser sera le meilleur. Et donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que Leibniz pressent que d'autres appartements sont possibles et que, d'une certaine manière, on pourrait envisager le pire et que des mondes, on peut passer de l'un à l'autre de façon un peu bariolée, enfin comme dans la comédie musicale où je disais tout à l'heure de l'opéra. Oui, c'est vrai que l'opéra, ce qui est intéressant, c'est que on passe d'un univers à l'autre, d'une scène à l'autre, parfois sans transition ou à travers un jeu de lumière, à travers une rupture de changement musical. Et donc on a effectivement tout ça qui est mis en œuvre par le montage auquel procède Lucas dans la scène qui vient d'être évoquée.
Vous diriez que juste je vous interromps, que Lucas finalement cette scène permet de comprendre l'idée de Leibniz, oui, selon laquelle une multitude de mondes est possible. Oui. Finalement, on a l'impression que c'est le pire monde qui est choisi. C'est-à-dire qu'il y a quand même un parallèle entre Sextus, qui est infâme, et Palpatine, qui est infâme aussi. Mais finalement, ce pire est malgré tout le meilleur des mondes possibles choisi par Dieu ou choisi par Lucas.
C'est le meilleur des mondes possibles choisi par Dieu. Dans la configuration contemporaine qui est la nôtre, nous ne sommes plus dans cet univers baroque de Leibniz où l'harmonie préside à l'organisation des accords. Enfin, la philosophie de Leibniz se soumet à une harmonie. Il y a chez Leibniz une harmonie préétablie par Dieu. Le problème ici, dans Star Wars, c'est que il n'y a plus d'harmonie préétablie, c'est que tous les mondes possibles passent dans le réel. On n'a plus la sélection, le principe du meilleur qui intervient, et que c'est toute la pyramide qui a été évoquée, c'est toutes les identités de Leibniz, de Sextus, pardon, toutes les identités qui passent dans le réel.
Toutes les identités de Palpatine, oui, ou de la fiction Star Wars, comme le labyrinthe de Borges, finalement.
Voilà, c'est ça. Alors du coup, Palpatine n'est pas Palpatine. Je veux dire qu'il n'a pas l'identité du sujet qui pourrait s'autoproclamer comme... Il s'autoproclame comme le meilleur, mais on sent bien que derrière cette identité autoproclamée, il y en a une autre. Et si bien qu'on pourrait parler peut-être ici d'une identité nomade, d'une identité qui est multiple, puisque nous savons que Palpatine, c'est tout autant Dark Sidious, mais ça n'est pas évidemment tout à fait la même chose.
Oui.
Ça n'est pas tout à fait la même chose. Autrement dit, nous avons tous les mondes possibles qui passent dans le réel en même temps. Et du coup, il est vrai que les personnages de Star Wars ont ce caractère de gémellité ou ce caractère en miroir qui les démultiplie de sorte que Anakin
devient finalement Dark Vador, voilà. Que finalement Han Solo soit associé avec Chewbacca, Luke avec ses 3PO comme on l'a entendu. Finalement, on en revient aussi à ce que vous disiez sur des alliances, des rencontres inattendues. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce que vous dites, c'est que Star Wars finalement est beaucoup moins manichéen qu'on ne le pense. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment le mal d'un côté et le bien de l'autre. Mais on voit que d'un point de vue politique, c'est-à-dire cette hybridation de l'humanité qui est impliquée par l'idée de plurivers, implique aussi, il y a aussi l'implication d'une hybridation politique. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas d'un côté la République et l'Empire du Mal. Finalement, tout ça est beaucoup plus intriqué qu'on ne le pense.
Oui, alors en effet, on pourrait considérer que le bien et le mal ne sont que des limites. Des limites comme le sommet d'un cône et sa base, qui chez Leibniz va à l'infini. Et que du coup, il y a des degrés au fond de perspective. Enfin, il y a une espèce de monadologie morale chez Leibniz. Il y a un point de vue sur la force chez lui. Il faut savoir que le concept de force, précisément, trouve toute sa puissance philosophique dans la philosophie de Leibniz, qui refuse de réduire la réalité à la matière, aux atomes. Il va substituer à l'atomisme grec, il va substituer une monadologie, c'est-à-dire qu'il considère que l'horloge effectivement n'est pas animée de l'intérieur et les roues dentées sont certes inertes, mais on peut considérer que ça c'est un très mauvais modèle mécanique pour envisager ce labyrinthe dont que nous évoquions là. Non, au contraire, pour Leibniz, chaque particule est animée, chaque particule de matière est déjà vivante, est le siège d'une force. Et cette force est une perspective possible entre ces deux limites que sont le bien et le mal, qui ne sont pas des choses, évidemment, qui ne sont pas des substances, mais qui sont des perspectives, des points de vue, dirait Leibniz.
May I present Lama Su, Prime Minister of Kamino. And this is Master Jedi.
Obi-Wan Kenobi.
I trust you're going to enjoy your stay. Please.
Et maintenant, parlons affaires. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes dans les temps. 200 000 unités sont déjà prêtes et 1 million d'autres seront bientôt terminées.
Ah, bonne nouvelle. L'armée.
Oui. L'armée de clones, je dirais même l'une des meilleures que nous ayons jamais conçues. Mais vous devez être impatient d'inspecter vous-même ces unités.
C'est pour ça que je suis là.
Très impressionnant.
J'espérais bien que vous seriez satisfait. Nous sommes très fiers de nos méthodes de préparation au combat et de nos programmes d'entraînement. Ce groupe-ci a été créé voici environ 5 ans. Ils sont totalement soumis, ils obéissent à n'importe quel ordre sans poser de questions. Nous avons modifié leur structure génétique pour les rendre moins indépendants que le sujet d'origine.
Comment penser l'absence du monde, le non-monde, un non-monde qui n'est pas immonde ? Mais j'ai peine à dire cela que je dois attirer votre attention sur cette collusion qui est tout sauf insignifiante entre au moins 2 sens du latin mundus, dont vient évidemment le français monde. L'adjectif mundus signifie propre, net, élégant, par opposition à immundus, immonde, sale, impur, ordurier, abject. Maintenant, il y a 2 noms masculins, mundus, Mundi, qui signifie l'un le monde, l'universel, le globe, le monde habité. L'autre, homonyme et quasi synonyme, signifie les objets de toilette, les ornements, les parures. Mais ces deux sens, ou deux usages apparemment différents, sont intrinsèquement liés, comme dans le cosmos grec, qui signifie également le monde, mais aussi l'arrangement, la parure cosmétique. Le monde, comme totalité des étangs, est aussi un ordre approprié, propre, un bon arrangement, une harmonie ou une beauté. Si bien que l'immonde, si ce n'est pas l'absence de monde, n'est pas pour autant étranger à cette signification. Jean-Clé Martin, on a découvert dans l'extrait l'armée des clones, cette armée qui apparaît dans l'épisode 2, qui s'appelle justement l'attaque des clones. Cette armée est complètement contraire à l'esprit de Star Wars, qui est fondé, comme on en a parlé, sur l'idée de plurivers et donc sur l'hétérogénéité, et qui est aussi le contraire du monde tel que défini par les Grecs et tel que Jacques Derrida le reprend, à savoir un monde qui est à la fois quelque chose d'harmonieux et quelque chose, un cosmos, un bon arrangement, comme il le dit. Finalement, Star Wars, ce n'est pas ça, et pourtant cette armée des clones apparaît effectivement dans Star Wars.
Oui, alors on a effectivement, me semble-t-il, quelque chose de très intéressant qui n'est pas du tout manichéen dans la manière dont Lucas articule au fond la question de la technique. D'un côté, il y a la répétition à l'identique, cette espèce de comment dire, de retour du même. Vous avez donc des clones qui sont élaborés de manière techniques et qui vont se répéter sans différence. Vous voyez, la différence manque ici à la répétition. C'est la répétition du même et pas du tout cette espèce de bricolage qui court tout au long de tous les films de Star Wars. C'est bricolage qui fait précisément la figure la plus créatrice de la technique. Moi, j'étais très attentif à ça dès le départ. D'ailleurs, Anakin est un bricoleur. Je veux dire, tous les personnages les plus intéressants de ce film, notamment Yann Solo, Chewbacca, enfin, ils se définissent par ce bricolage qui consiste à pouvoir réparer une machine avec les pièces d'une autre machine.
Et d'ailleurs,
en passant d'une planète à une autre planète dont les principes de fonctionnement ne sont pas du tout les mêmes.
Et d'ailleurs, Anakin n'est pas seulement un maître du bricolage, c'est aussi l'être bricolé par excellence dans Star Wars. C'est quand même un être complètement augmenté, modifié.
Il va effectivement rentrer dans une forme d'hybridation qui va à la fin aussi constituer le retour du Jedi, avec un retour, une répétition qui produit de la différence, puisque ça n'est pas un comportement robotique, ça n'est pas du tout un comportement programmé. Dark Vador va échapper finalement au destin qui lui était imposé par Palpatine. Dark Vador, c'est sans doute cette figure romantique au fond qui va faire l'épreuve du mal, qui fait l'expérience du mal, parce que le siècle classique, le siècle de la raison, on ne va pas éventuellement on affronte le mal, mais on n'y va jamais, enfin je veux dire ce sont les héros romantiques qui vont faire l'expérience, comme Bataille l'avait très bien compris dans la littérature et le mal, ce sont les héros romantiques qui vont jusqu'au bout, c'est-à-dire qui ont cette vertu, cette force aussi qui consiste à descendre en enfer, à éprouver aussi des événements et des écarts qui ne s'intègrent cependant pas dans un programme. Et du coup, je crois qu'il y a deux versants technologiques qui pourraient donner la part du bien et du mal. Il y a d'un côté la mauvaise technique qui est clonée.
Le clonage qui est une parodie de la répétition.
De la répétition. Et d'un autre côté, il y a cette inventivité technique qui rentre dans une manipulation, dans une déterritorialisation de la main, d'une main qui est capable, au fond, de
de se démultiplier. Mais vous avez parlé, on a dit que donc Anakin était un bricolé, et puis il était lui-même bricolé. C'est un être hybride par excellence dans Star Wars. Mais pour autant, pour revenir sur le sens du texte de Derrida, effectivement, il paraît quand même immonde. C'est-à-dire que Star Wars, dans ce que vous dites, semble dessiner à la fois quelque chose qui n'est pas un monde, mais qui n'est pas immonde pour autant. Mais cela ne se vérifie pas avec Anakin. Il est plutôt infâme même.
Oui. On est effectivement dans l'immonde, mais alors cette dimension cosmétique qu'évoquait Derrida pour qualifier le monde, cette dimension cosmétique n'est dans les films de Lucas, dès le premier Star Wars, on voit bien que les robots, les vaisseaux sont dans une forme de crasse élémentaire qu'ils surgissent d'une saleté qui n'est pas primordiale, mais enfin, c'est une saleté qui relève d'accident, d'un régime accidenté, ce régime du sublunaire, enfin ce aristotélicien, je veux dire, où tout ce qui peut arriver, c'est aussi le pire, où c'est le hasard qui va, au fond, cabosser absolument tous les êtres et toutes les choses. Et du coup, oui, en effet, nous sommes là en présence de vaisseaux qui ne sont pas du tout aseptisés, dans la saleté, dans cette boue platonicienne. À un moment donné, Platon, dans le Parménide, posait la question de savoir s'il y avait une idée de la boue.
Du
poil, de la crasse. Et donc, je crois que chez Derrida, au fond, il y a deux choses. Il y a d'une part la considération de ce que c'est qu'un monde, mais d'un autre côté, il y a aussi l'idée que certains mondes échappent à cette propreté-là, que certains mondes, notamment le monde de l'animal, dans La Bête et le Souverain, échappent à ce que nous pourrions qualifier par le bel ordre.
Pour un homme digne de renommée, il faut un principe d'action puissant. Sa route ne sera pas unie, il lui faudra monter et descendre, céder au flot et naviguer dans la bourrasque, et poursuivre sa course ayant la fortune contraire. Que d'écueils aussi que d'obstacles, il les émoussera, les aplanira par lui-même. Le feu éprouve l'or et les revers l'homme courageux. Vois à quelle hauteur doit s'élever la vertu et juge si elle peut marcher par des voies sans péril. Un chemin escarpé commence ma carrière. Mes coursiers rafraîchis, sortant de la barrière, ne gravissent qu'à peine à la cime des airs. Là, tout Dieu que je suis, du haut de l'univers, je ne puis sans effroi voir l'abîme du vide. En fin de mon déclin, la pente est si rapide que Tétis, qui le soir me reçoit dans ses eaux, tremble d'y voir rouler mon char et mes chevaux. Le père essaye toujours d'intimider le jeune téméraire. Je veux qu'en ton chemin, nulle erreur ne t'égare. Oseras-tu braver plus d'un monstre barbare? Les cornes du taureau, la gueule du lion et l'arc du sagittaire? Le char est à moi, qu'on l'attelle. Vous croyez m'intimider? Au contraire, je veux me tenir ferme où Phébus lui-même tressaille de crainte. C'est aux âmes basses et peureuses à suivre les routes les plus sûres. Le courage tente les accès difficiles. Jean-Claude Martin, je viens de faire la lecture d'un extrait de La Providence de Sénèque. C'est un texte que vous évoquez dans votre essai, et je l'ai lu sur une ambiance. C'est le combat final dans l'épisode 2 de Star Wars, dans l'arène, où Anakin monte effectivement une sorte de monstre lézard. C'est exactement ce qu'on retrouve dans le texte de Sénèque, où il est question effectivement d'une monture qui permet d'affronter les obstacles.
Oui, alors ce texte de Sénèque est tout aussi beau que le texte de Leibniz qui a été lu précédemment et qui relève, me semble-t-il, de l'inventivité, de la créativité proprement philosophique, qui n'est pas de même registre que celle du cinéma, la philosophie n'ayant pas à récupérer évidemment le cinéma comme étant un instrument simplement d'exemplification, c'est pas du tout ça. Et donc ce qui me paraît néanmoins ici convergent et ce qui fait entre philosophie et cinéma une forme de complicité et de rencontre d'ailleurs adéquate, c'est que il est question dans le texte de Sénèque de la vertu. Et que la vertu, ça n'est pas l'exercice du bien. La vertu, Aristote déjà disait que bon, la vertu, c'est ce mince sentier, de fait, ce sentier du sommet d'une montagne qui circule entre les deux pentes opposées. Ce sont les deux pentes opposées du vice, dit-il à un moment donné. La vertu, elle est quelque chose qui s'exprime à la pointe, sur ce pic où on ne peut que rencontrer les deux pentes opposées du vice. Et du coup, ce que c'est que la vertu, eh ben, c'est quelque chose qui relève du salut, c'est-à-dire quelque chose qui renvoie à un mouvement où il faut s'extraire d'un monde qui de toute manière est mauvais, un mouvement où il faut s'extraire pour toucher à la pointe, pour parvenir au pic, moyennant effectivement un attelage, moyennant quelque chose qui relève de la vertu au sens où la vertu est aussi virtuosité. L'étymologie de la vertu renvoie à la virtuosité et à la virtualité, à ses potentialités, à cette puissance que chacun est capable d'arracher à soi-même en cherchant à s'élever. En cherchant à s'élever à travers des associations multiples, à travers des associations qui sont parfois monstrueuses. Ce sont le chevalier du Moyen-Âge s'associe non seulement au cheval, puisque le mot chevalier est lui-même issu du cheval. Hein, donc le mot chevalier, c'est tout un signe qui renvoie à une sémiotique qui est celle du cheval avec l'étrier, avec l'appui sur l'étrier, la lance qui pénètre au plus profond. Et donc, par conséquent, je dirais que... il y a là, dans l'armure du chevalier, qui est une armure métallique, technique, il y a quelque chose, effectivement, qui sera réexploité par le cinéma ici, par Lucas, peut-être parfois pour Vador en direction du samouraï, mais enfin, toujours est-il que la vertu est cette ligne de fuite, ce mince sentier que l'on peut emprunter, que la force nous permet en tout cas de rejoindre, de réactualiser dans un combat, dans une lutte qui n'est pas simplement un combat stupide, mais qui renvoie bel et bien à un héroïsme.
Jean-Claude Martin, c'est l'heure de la dernière question, et à partir de cette idée de vertu, est-ce que vous pensez, parce que depuis tout à l'heure on parle d'une multiplicité, on a articulé corps individuel hybride, corps politique hybride, mais finalement comment on réussit à gouverner, à rassembler des éléments, des monades qui, chacune, fonctionnent selon une règle particulière? Est-ce que c'est la vertu qui permet de les associer?
D'une certaine manière, le chevalier dont je parlais, le Jedi, n'est pas inscrit dans la dépendance politique. Hein. Il y a une liberté du Jedi par rapport au politique, comme il y a une liberté d'Achille par rapport à Agamemnon. On sait que Achille ne lutte pas au nom d'un pouvoir, et que il revendique sa liberté suprême de lutteur, enfin de combattant. Et on a un peu quelque chose de comparable dans les films de Lucas. Alors, la question est précisément de savoir comment articuler cette divergence, comment articuler cette hétérogénéité.
Vous n'avez plus que 30 secondes.
Oui, il me reste... je crois que Rousseau, en tout cas, dans le Contrat social, à un moment donné, dit que toutes les grandes républiques ont fait appel à un étranger pour décider de leur sort et pour imaginer une constitution qui leur soit propre, étant impropre par nature.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow wave
of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me.
Merci beaucoup à vous, Jean-Claude Martin. On doit se quitter vite. Je rappelle que votre essai s'appelle Pluriver, essai sur la fin du monde. Il est paru au PIF, au PUF. Et puis je rappelle que nous sommes toute cette semaine en partenariat avec Philosophie Magazine, leur hors-série consacrée à Star Wars, le mythe, tu comprendras, disponible chez votre marchand de journaux, comme on dit. Et puis c'est donc la fin des Nouveaux Chemins pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain pour la suite et la fin de notre semaine Star Wars, en compagnie de la philosophe et psychanalyste Clotilde Le Guil, qui analysera pour nous la relation complexe et castratrice entre Luke et son père Dark Vador. Et si d'ici demain, bien sûr, vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins.